Nous terminerons ces journées en écoutant Madame Julia Kristeva, psychanalyste.
Bon, ben merci, monsieur. Votre présentation très ascétique laisse entendre que les gens qui sont là savent ce qui va suivre. Je ne suis pas du tout persuadée. Et donc, je vais faire moi-même une présentation de ce que je souhaite leur communiquer. Et donc, j'ai essayé à partir de là de réfléchir à l'angle à travers lequel je pouvais aborder cette annonce un peu gourmande qui figure sur le programme « La sexualité féminine aujourd'hui ». Et je me suis dit que peut-être la meilleure façon d'en parler, c'est d'entendre vos questions et d'essayer de répondre à ces questions. Mais on ne peut pas demander des questions sans avoir fait une petite présentation. Et donc, je présenterai le dernier ouvrage que j'ai publié, qui s'appelle « Le génie féminin ». C'est une trilogie qui est consacrée à trois femmes qui sont très différentes et qui abordent de manière différente le destin des femmes au XXe siècle. Ces trois femmes sont Hannah Arendt, qui est une philosophe que certains d'entre vous connaissent. C'est Melanie Klein, qui est la créatrice, selon moi, de la psychanalyse des enfants. Et là, on est en pleine psychanalyse, mais les autres femmes nous y conduisent aussi. Et la troisième, c'est l'écrivaine, on dit aujourd'hui, française Colette. Alors, pourquoi j'ai choisi ces trois femmes et pourquoi le génie féminin et comment il rencontre la question de la sexualité féminine? Je vais essayer de vous présenter cela en une demi-heure et après, dans les quarts d'heure qui nous restent, j'essaierai de répondre à vos questions. J'ai beaucoup travaillé en psychanalyse, en tant que psychanalyste, justement, depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait presque 30 ans, sinon plus. Et j'ai essayé de présenter mes différentes observations, conclusions, dans différents travaux plutôt techniques, spécialisés. Et je suis par ailleurs linguiste, philosophe, critique littéraire et souvent associée au mouvement féminin, au mouvement féministe. Et mes amis, que ce soit en France ou à l'étranger, et tout particulièrement aux États-Unis où j'enseigne une fois par an, m'ont toujours demandé pourquoi je n'ai pas fait un livre global où je résumerais ma compréhension de la féminité. Et j'ai pensé que c'est quelque chose que je ne souhaiterais pas faire, parce que ce qui m'intéressait dans le mouvement féministe, c'est la revendication de liberté. Or, je pense qu'il n'y a pas de liberté de groupe, et qu'il est impossible de parler de toutes les femmes. Que la notion de liberté à laquelle on est arrivé dans notre civilisation, européenne en particulier, mais elle est en train de se globaliser pour le meilleur et pour le pire. En tout cas, ce à quoi on est arrivé dans ce que cette civilisation a de meilleur, c'est de considérer que la liberté est singulière. Cette idée est largement répandue aujourd'hui, encore qu'on ne la respecte pas toujours. Elle se focalise très particulièrement chez un philosophe du début du XIIIe siècle qui s'appelle Duns Scott et qui a résumé cette idée-là sous le concept de ceci. En latin, on appelle ça exeitas. On connaît ce titre, ce mot, dans la fameuse phrase ecce homo, cet homme-ci, cet homme-là, qu'on emploie pour le Christ. Alors, ce qu'il voulait dire, c'est que la vérité n'est pas générale. Elle n'est pas celle des idées générales. Elle n'est pas non plus dans la matière. Quand on dit qu'elle n'est pas dans les idées, on imagine, mais ce n'est pas dans les idées, c'est qu'elle est dans la matière. Elle n'est pas non plus dans la matière opaque. Elle est dans la singularité des êtres, dans cet homme-ci, cette femme-là. Et cette idée de singularité était reprise par un certain nombre de philosophes et de penseurs qui se sont penchés sur le destin du XXe siècle, où on a constaté qu'au contraire, Et malgré ce souci de liberté qui caractérise notre civilisation occidentale, eh bien, on a échoué dans le totalitarisme. Ils ont essayé, contre ce totalitarisme, qu'il soit stalinien ou nazi, où on enfermait la pensée et les corps dans des camps, on a essayé de réhabiliter l'idée de singularité. Et on s'est rendu compte, en faisant ces tentatives de réhabilitation, que certains moments de libéralisation, de liberté justement, qui ont voulu libérer les gens, ont échoué parce qu'ils sont devenus des mouvements communautaires ou totaux et ou totalitaires, et ils ont échoué justement à parler de la singularité. Si on prend par exemple les révolutions prolétariennes, on a voulu libérer tous les prolétaires, mais on a oublié que chaque individu est différent. Et on a freiné la liberté de penser qui n'est qu'individuelle. Même chose avec le tiers-monde. On a voulu libérer le tiers-monde contre l'Occident, et le tiers-monde s'est enfermé soit dans des mouvements sociologiques, soit dans des mouvements religieux qui veulent la liberté de toutes les communautés en oubliant la liberté individuelle. Et dans la foulée de cette réflexion, j'ai constaté que moi-même, en étant enthousiasmée par les mouvements féministes qui ont eu lieu dans ma jeunesse autour de 68 et après, eh bien, ces mouvements féministes se sont très vite sclérosés dans une idéologie commune, souvent, sinon totalitaire, du moins écrasant la singularité de ce que chaque femme veut dire, pour ne voir que l'idéologie de la chef ou telle doctrine plus ou moins liée à des idéologies trotskistes, maoïstes, freudiennes ou autres, mais avec des généralités qui sous-estiment la liberté de la personne. Et je me suis dit que si telle est mon expérience, ma façon d'hériter du mouvement féministe, c'est de m'opposer à ce que j'appelle dans ce livre, de cette trilogie qui s'appelle « Le génie féminin », de m'opposer au féminisme de masse en me demandant quel est l'apport des femmes singulières à la liberté humaine au XXe siècle. Est-ce qu'il y en a eu? Et s'il y en a eu, lesquelles? Et comment ces apports-là s'enracinent dans la sexualité féminine? Et à ce moment-là, je retrouverai peut-être quelque chose de commun. Mais de ne pas commencer par l'idée, mais qu'est-ce que toutes les femmes? Qu'est-ce que toute la sexualité féminine? En quoi toutes les femmes sont pareilles? Commençons d'abord par nous poser la question en quoi il y a des individus féminins qui ont essayé d'aller dans le sens du groupe, mais au-delà du groupe aussi, et de féconder le groupe et l'humanité tout entière à partir de leur réalisation singulière. Et c'est pour ça que j'ai pris le terme de génie, qui est un thème provocateur évidemment, mais qui s'oppose justement à l'idée massificatrice dans laquelle s'enferment les mouvements libertaires. Alors, le terme de génie a été employé, vous le savez sans doute, par les Grecs déjà, c'est le terme daimon, puis après les Latins ont traduit ça par génie, pour indiquer un esprit, donc c'est le divin toujours, qui préside à la naissance d'une personne. Alors, si vous avez la chance d'avoir un génie qui préside à votre naissance, vous pouvez être un génie. Ça peut aller bien. Peu à peu, le terme est descendu du divin pour désigner la personne elle-même qui est sous l'influence de cet être divin. Donc, si vous êtes sous l'influence d'un être divin, vous êtes génie vous-même, vous êtes par exemple Michel-Ange, vous êtes Raphaël, et le terme s'est employé dans ce sens pendant la Renaissance. Ce qui fait qu'une de mes génies féminins, Hannah Arendt, considère que le génie, le terme de génie dont elle se moque d'ailleurs, est une sorte, je traduis à ma façon, mais c'est le sens de sa pensée, c'est l'atterrissage du divin chez les hommes, sur terre, à un moment, la Renaissance, où on a l'impression que Dieu s'éloigne de nous. Vous savez qu'à la Renaissance, on commence à se poser des questions sur la religion, on décortique les religions, une pensée libre, transreligieuse, parareligieuse ou athée même, ce profil, et donc c'est à ce moment-là que les génies apparaissent, qui sont à l'égal des dieux, ou sinon mieux. Donc elle pense que c'est un atterrissage du divin sur terre pour ne pas mourir en quelque sorte de banalité dans un monde sans dieu. Alors, les génies féminins, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Alors, avant de vous parler de ces trois génies qui font la trilogie et qui n'ont pas été toutes féministes, au contraire. Certaines ont été très hostiles au féminisme. Mais elles ont essayé de réaliser leur particularité, leur liberté de pensée, de comportement existentiel, biographique, sexuel, comme elles ont pu, souvent contre les féminismes et parfois en l'accompagnant. Avant de vous parler donc de ces trois femmes, je vous dirai deux conclusions, deux ou trois conclusions de mon observation sur la sexualité féminine telle que je la fais à partir de mon expérience du divan. Je résume ceci en disant que il y a, selon les psychanalystes, un schéma qui est commun à tous les hommes et à toutes les femmes, qui est l'Œdipe. Mais chez la femme, il y a un double Œdipe. Et c'est ça qui caractérise la sexualité féminine. Qu'est-ce que c'est que ce double Œdipe ? Cela consiste en ceci, que le premier objet d'amour de tout être humain, c'est la mère. Donc c'est une femme. Donc, et Freud nous dit, l'Œdipe, c'est que l'homme aime la femme. Donc c'est Jocaste, c'est l'inceste. Et l'homme va essayer après de se détacher de cet objet féminin qu'il aime, mais c'est interdit. Et donc, en aimant sa femme, il déteste son père, il le tue même. C'est Laïos qui est tué par Œdipe. Et puis, par la suite, dans l'évolution dite normale de l'humanité, l'homme va chercher un objet d'amour qui sera à l'image du premier, c'est-à-dire une autre femme, donc, du même sexe. Parfois, les hommes trouvent même des partenaires qui ressemblent comme des gouttes d'eau à leur mère, mais sans aller jusque-là, on reste dans le schéma, on va aimer une femme du même sexe. C'est l'évolution de l'homme. Chez la femme, la situation est tout à fait différente, dans le cas le plus banal de notre vie à nous toutes. On est toutes sorties d'une mère. Donc l'objet principal, l'objet premier de l'amour féminin est la mère. Ce qui conduit Freud à dire, mais ce n'est pas toujours relevé par les analystes, qu'il y aurait une homosexualité endogène chez toute femme. On aime la mère, on s'aime entre femmes. Cet amour est souvent conflictuel. On sait comment cet amour entre femmes dégénère en crépage de chignon et autres comptes à régler avec maman et les copines. Mais il y a cette adhésion initiale au contenant, parce que ça nous contient dans l'utérus et dans les bras de la petite enfance, un amour initial pour le féminin. Freud appelle cette homosexualité endogène un continent tellement refoulé dans la femme, dans l'inconscient de la femme, dans son développement hétérosexuel, qu'il le compare à la civilisation minoé-mycénienne, qui est la civilisation avant les Grecs, classique que vous connaissez. Quand vous allez en Grèce, vous voyez ces grandes statues d'Apollon, d'Athéna, etc. C'est la civilisation grecque classique. Mais avant elle, il y a des ruines, des vestiges extrêmement éphémères et fugaces qui nous renvoient à une autre civilisation peu accessible. Eh bien, Freud dit, mais cette autre civilisation, c'est la relation de la femme à sa mère, qu'elle s'arrange à oublier, à refouler, d'autant plus que cette relation n'est peut-être même pas inscrite dans le langage, puisqu'on est dans des situations extrêmement archaïques de l'enfant avec sa mère, où on ne parle pas encore. Ça passe par le sensoriel, ça passe par les parfums, les sons, les odeurs, le tactile, d'où l'importance dans le féminin de cette communication sensorielle, et pour la sexualité des femmes aussi. Donc, le premier Œdipe de la femme, ce que j'appelle moi l'Œdipe bis, est cette adhésion au maternel, sensoriel, pour aller vite. Et puis, il y a l'évolution qui conduit la petite fille à apprendre la langue, à se séparer peu à peu de sa mère et à passer du côté de l'homme. Alors, comment se passe ce passage qu'on va appeler Œdipe bis? Mais ce passage se passe de manière très ambiguë, là aussi, puisque, d'une part, la petite fille va commencer à se dire, je n'aime plus maman, je la déteste même parce qu'elle est une rivale, j'aime papa. Toutes les petites filles aiment papa. Et elles vont choisir leur partenaire à l'image de papa, donc elles vont se marier avec un homme. D'où le changement d'objet. Alors que l'homme ne change pas d'objet, parce qu'il va prendre comme partenaire l'équivalent sexuel de sa femme, de sa mère, la petite fille va changer d'objet. Nous disons, nous analystes, que ça suppose une grande maturité psychique qu'on ne demande pas à l'homme, excusez-moi, messieurs, parce que la petite fille va changer d'objet, donc elle va aimer un autre sexe. Et non seulement elle va faire ça, mais cet objet masculin va être aussi son idéal, parce que papa va être l'idéal symbolique, on va dire, parce qu'il occupe une place importante dans la famille, en tout cas dans la famille classique, et encore un peu dans la famille moderne recomposée, même si l'égalité perdure, mais nous savons combien la parité est difficile et combien le rôle mâle et paternel continue à être important. Elle va s'identifier aussi au rôle du père dans la mesure où il représente les normes de la société, ce qu'on appelle le surmoi, les besoins de loi, d'interdit, de morale, tout ce qui est l'extérieur, que l'homme, du simple fait qu'il est davantage à l'extérieur de la maison, symbolise. Donc, il va y avoir à la fois une identification avec le père, le côté que Lacan va appeler phallique de toute femme. Si le père est le phallus et moi, je veux être un être pensant, réfléchissant, ayant un rôle social, participant au contrat social et même devenant une maîtresse-femme dans ce contrat social, symboliquement, j'adhère à cette instance phallique du père. Mais en même temps, il va être aussi mon objet d'amour. Donc, vous voyez tout ce passage qui suppose une grande complexité psychique du côté féminin, qui n'est peut-être pas la même, et peut-être est-elle aussi moindre dans l'évolution de l'homme. Il y a aussi une autre particularité, outre ce Édipe prime et Édipe bis, qui complexifie la psyché féminine, il y a le fait que, en étant sujet de la loi, sujet du langage, sujet du père, la fille n'a pas oublié son appartenance à son contenant ou continent maternel. Donc, elle est en quelque sorte divisée entre le sensoriel et le langagier, le maternel et le paternel. Et cette division, souvent, elle l'éprouve comme une étrangeté dans le monde de la culture. Alors, éprouver cette étrangeté, ça veut dire j'appartiens au monde du travail, au monde de la culture, au monde de la politique, au monde des exigences, mais je n'en suis pas. C'est comme si j'étais un peu différente, un peu à l'écart. Et ce sentiment de différence, les femmes le vivent de manière, là aussi, très singulière, et chacune à sa façon, bien entendu, je reviendrai sur la singularité de chacune. Mais en gros, on peut dire que ces différences se résument en deux attitudes. Soit on vit cette différence, cette étrangeté dans l'ordre des pères, comme une malédiction. Je suis exclue. Et ça donne lieu à la dépressivité féminine. J'ai consacré un de mes livres à la dépression, ça s'appelle « Soleil noir, dépression et mélancolie ». Et en travaillant dans ce domaine, je me suis rendu compte combien la dépressivité féminine est plus répandue, statistiquement parlant, que celle des hommes, que les femmes font plus de tentatives de suicide, même si elles se ratent davantage, et que les hommes réussissent plus. Donc, on dirait qu'ils sont plus radicaux, alors que la dépressivité féminine est plus répandue et plus, là aussi, endogène. Donc, cela voudrait dire donc, que cette étrangeté dans l'ordre social, dans l'ordre des pères, peut être vécu de manière douloureuse, et c'est quelque chose que j'entends beaucoup sur le divan. On l'a vécu aussi autour des mouvements féministes, lorsque une théorie s'était développée à l'époque, à savoir que les femmes sont exclues par l'ordre phallique et que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. On est allé là dans des schémas un peu trop radicaux, qui consistaient à dire que le langage, la politique, tout ça c'est pour les hommes, et les femmes doivent cultiver quelque chose de différent. Ce qui était sans doute une exagération. Mais on peut penser aussi que ce sentiment d'être étrangère à l'ordre phallique n'est pas que négatif. Ça peut produire une distance créative une distance ironique, une distance de contestation, de révolte, d'innovation, du désir de changer l'ordre des choses. Et dans l'histoire des philosophies, il y a une phrase qu'on cite souvent pour essayer de parler du féminin de manière un peu surprenante. C'est une phrase de Hegel qui dit que les femmes sont l'éternelle ironie de la communauté. On s'est souvent demandé ce que ça peut bien vouloir dire. Il me semble que, si vous m'avez suivi, bien cette phrase correspond à cette étrangeté justement des femmes dans l'ordre des hommes, dans l'ordre de la langue, du pouvoir, etc. Mais au lieu de voir les choses de manière négative du côté de la mélancolie, la phrase insiste sur le fait qu'elles restent ironiques, elles s'en moquent, elles ont une attitude en biais. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles deviennent des grandes comiques, ce qui demande beaucoup de soutiens sociaux, beaucoup de chance et beaucoup de capacité d'adaptation, ce qui n'est pas toujours possible quand on a le travail qu'on a. Et je reviendrai sur la maternité. Mais c'est une attitude de persiflage et d'ironie souvent novatrice et qui me paraît très intéressante et qui s'enracine dans cette double structure Oedipe bis côté papa, Oedipe prime côté maman, et toujours pas vraiment appartenir, mais étant dans une attitude d'interrogation. Alors, il y a aussi l'expérience de la maternité qui n'a pas été prise en compte par les féministes, ou très peu, qui revient maintenant dans certains groupes féministes, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et on essaye d'attirer aussi les mères dans ce mouvement de libération des femmes. Je retiendrai de cette expérience de la maternité, car elle est extrêmement complexe et très difficile à percer comme ça rapidement, le rapport au temps très différent qu'elle induit. Généralement, et l'histoire de la philosophie le montre, l'homme pense le temps comme une course à la mort. L'homme masculin, mais les philosophes, en nous présentant l'humanité, ont accentué cette expérience qui nous est commune, hommes et femmes, à savoir que le temps conduit à la fin du vivant, et donc nous vivons dans le souci de notre mortalité, et à partir de là, pour compenser ce souci de la mortalité, nous inventons l'éternité. Je schématise exprès, mais c'est ce qui se dégage dans la conception philosophique masculine du temps. Évidemment, certains raffinent en disant que dans cette course vers la mort, il y a la violence, il y a le sadomasochisme, il y a aussi le plaisir sadomasochique, et des grands écrivains se sont penchés là-dessus, pour ne citer qu'un, Proust. Et d'autres se sont focalisés aussi sur l'arrêt du temps, sur le temps vertical, ce qu'on appelait la durée, chez certains philosophes comme Bergson par exemple. Une durée qui n'est pas l'écoulement du temps, mais un temps que nous vivons comme un instant qui ne passe pas, l'instant extatique par exemple. Eh bien, chez toutes les femmes que j'ai pu étudier dans cette trilogie, et je reviendrai très rapidement sur Hannah Arendt, Klein et Colette, cette dimension du temps n'est pas abolie, la course vers la mort, la mortalité, l'éternité. Mais ce qui prédomine, c'est le thème de la renaissance, de la vie, de l'éclosion. Il y a, je vous donne trois exemples. Chez Hannah Arendt a été quelqu'un qui est donc d'origine juive, elle était philosophe et c'était la maîtresse de Heidegger. Elle a fui en France pendant la guerre, elle était enfermée dans un camp, elle a réussi à s'évader et elle est partie aux États-Unis. Et lorsqu'elle réfléchit sur ce qui s'est passé au XXe siècle, elle écrit un livre sur les origines de l'impérialisme et de l'antisémitisme, et elle se penche sur le phénomène concentrationnaire. Et elle s'insurge contre les deux totalitarismes, stalinien et nazi, Parce que, contrairement aux gens de l'époque qui trouvaient que ce sont deux forces antagonistes, parce qu'il est vrai que les communistes ont combattu les nazis et vice-versa, eh bien, elle dit, mais non, c'est les mêmes. Et pourquoi elles sont les mêmes? Parce qu'ils ont déclaré, dit-elle, la superfluité de la vie humaine en faisant les camps. Et donc, cette femme qui n'a pas eu d'enfant s'est faite la propagandantiste de ce qui lui paraît, dit-elle, le miracle essentiel, c'est-à-dire la vie. Que la vie humaine est notre seule valeur en cette époque de crise de valeurs, qui a commencé évidemment bien avant nous, et bien avant la globalisation, et dont les totalitarismes sont des exemples. Et la seule manière de résister à cela, fondamentalement, c'est de défendre la vie humaine. La barbarie commence avec la destruction de la vie humaine. Et elle va même plus loin. Elle dit qu'il y a deux formes de la vie humaine. Elle appelle l'une Zoé, c'est la vie biologique, la vie pour la vie, pour manger, boire et reproduire la vie. Et l'autre, elle appelle Bios, c'est la vie racontée, d'où biographie, la vie qui a un sens. Et elle pense que les nazis, comme les staliniens, ont détruit d'abord le sens de la vie en empêchant les gens de penser, et ensuite la vie tout court. Et elle veut réhabiliter la vie. Et elle pense non seulement qu'il faut réhabiliter la vie, mais que la vie est le prototype de la liberté. Alors ça, c'est très, très difficile à comprendre. Pourquoi la vie serait-elle le prototype de la liberté? Je vais vous dire deux mots simplement pour comprendre l'originalité de pensée de cette femme et pourquoi je trouve qu'il faut, dans le monde moderne, insister sur la singularité et l'audace de pensée de chacun et de chacune et ne pas enfermer les gens dans un groupe. Elle dit la chose suivante en reprenant à son compte aussi bien Kant que Heidegger et un débat de Heidegger sur Kant. En somme, nous considérons la liberté comme une transgression. Je suis libre si je ne fais pas ce qu'on me demande de faire. Je m'oppose à papa, je m'oppose au chef de parti, je m'oppose à mon boss, etc. C'est intéressant, mais à ce moment-là, ma liberté dépend de celui qui m'interdit. Donc, ce n'est pas vraiment une liberté. La vraie liberté, c'est le commencement. Quand je décide de prendre l'initiative. La liberté, c'est l'initiative. Le commencement. Je décide, par exemple, là, j'arrête cette conférence, on se lève et on va boire un verre. La liberté. Et il dit, mais quel est le prototype ontologique du commencement? C'est la naissance. Un nouvel être vient au monde, éphémère, original, inattendu. Il peut être handicapé, il peut être génial. C'est la nouveauté que nous apporte une naissance. Donc, la naissance, il faut absolument la conserver dans le monde moderne, parce qu'elle est le prototype de la liberté. Les hommes naissent libres. Et le simple acte de naissance est une liberté. Et donc, cette défense de la naissance, on la voit tout au long de l'expérience des femmes. Et je me suis plu à l'examiner aussi chez Melanie Klein et chez Colette. Et je vous en donne deux petits aperçus là-dessus pour vous laisser le temps de poser des questions. Par exemple, Melanie Klein, c'est celle qui a inventé la psychanalyse des enfants après que Freud a commencé à analyser des petits-enfants, comme le petit Hans, par exemple, mais sans faire à proprement parler œuvre de psychanalyste d'enfants. Melanie Klein a commencé par analyser ses propres enfants, ce qui ne se fait plus parce qu'on a trop de proximité, on n'a pas suffisamment de distance pour le faire. Mais ça lui a pris beaucoup de choses. Et à partir de là, elle a inventé deux choses. Elle a inventé que l'enfant qui ne rêve pas et qui ne peut pas raconter beaucoup de choses, ni ses rêves, ni le reste, pour être analysé, eh bien, il a une activité qui peut permettre une psychanalyse. C'est le jeu. Il fallait y penser, maintenant ça a l'air évident. Mais c'est elle qui a considéré que c'est le jeu de l'enfant qui est son langage, et il suffit de l'observer, de l'analyser, pour comprendre les arrière-pensées de l'enfant, ses pensées, ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, et ce qui le travaille quand même. Et dès lors, elle a fait un changement radical en psychanalyse, qui est le suivant. Nous savons maintenant, c'est un peu la tarte à la crème, mais ce n'est pas faux, que la psychanalyse permet de déverrouiller la sexualité. C'est une cure des inhibitions sexuelles. On se demande si aujourd'hui il y a encore des inhibitions sexuelles, qu'est-ce qu'on a à faire en psychanalyse. Mais ce n'est pas si simple que cela, parce que la liberté sexuelle n'est qu'apparente, et souvent le rush dans le sexe se passe avec des compensations qui sont d'autres inhibitions, et en particulier des inhibitions de pensée. Eh bien, c'est là que Melanie Klein intervient. Elle fait de la psychanalyse un art de guérir non pas les inhibitions sexuelles, mais la pensée. Pourquoi ? Parce qu'on lui amène des enfants qui ne parlent pas, qui ne pensent pas, qui sont déjà en état d'échec scolaire, des autistes, on ne les appelait pas autistes encore, mais quelque chose de voisin de la psychose, et elle invente un art qui consiste à regarder leurs jeux, à les interpréter et à entrer dans l'univers de l'enfant de manière telle qu'elle déverrouille et l'agressivité de l'enfant, parce que très souvent c'est une rage qui se cache derrière l'incapacité de penser. Elle permet à cette rage de s'exprimer sur elle, prenant plein visage la violence de l'enfant, en lui permettant d'exprimer ses agressivités vis-à-vis de ses parents, et aussi, au fur et à mesure, la sexualité et la pensée. Donc, elle a transformé la psychanalyse en art de guérir le sexe, en art de guérir la pensée. Et c'est ce qui se développe après elle, avec la psychanalyse anglaise et américaine, qui a permis d'entendre la psychose, qui a permis d'entendre l'autisme, et qui permet une vie de la psychanalyse aujourd'hui plus complexe que du temps de Freud. Donc, vous voyez que c'est possible à partir d'un certain rapport au corps, au maternel, et à cette double configuration féminine, côté langage, côté sensation, côté discible, côté indicible. Donc, l'Œdipe biface est toujours quelque chose à un arrière-plan dans la créativité féminine, mais chacune fait de cette Œdipe biface une création particulière. Hannah Arendt va intervenir sur le nazisme et le stalinisme. Melanie Klein va inventer la psychanalyse des enfants. Et pour Colette, je ne vous dirai pas encore, je vous dirai pendant les questions, parce que monsieur me fait signe que nous devons nous arrêter. Voilà. J'ai le temps de parler de Colette. Juste 2 minutes et on aura 5 minutes de questions. Alors, chez Colette, ce qui se passe, c'est justement un rapport au temps et à la vie extrêmement bouleversant. Nous avons eu hier une célébration à la BNF du 50e anniversaire de la mort de Colette, et je regrettais que, parce que l'année est prise par la célébration de George Sand, ce que nous avons fait à la Bibliothèque nationale n'a pas eu suffisamment de retentissement. Mais c'était quand même un grand moment, parce que nous avons pu voir combien l'œuvre de Colette ne se limite pas à une image de bourguignonne qui aime les chiens et les chats et qui parle en roulant les airs, pire que mon accent à moi. Mais enfin, et c'est une femme qui a une sensibilité qu'elle arrive à traduire dans une langue française extraordinaire, et dont je retiendrai, pour aller dans le sens de cet hymne à la vie, deux phrases. La première, elle passe pour une grande amoureuse, et elle a eu 3 maris. Elle était trahie par le premier, vous avez vu ça dans le film qui était fait par Trintignant récemment, qui insiste un peu trop selon moi sur la dépressivité et pas sur le côté renaissant de Colette, mais peu importe. Elle passe pour être une grande amoureuse, et finalement, voilà ce qu'elle dit. L'amour, l'affaire la plus banale de l'existence, s'éloigne de moi. Alors là, qu'est-ce qui va lui arriver à cette pauvre femme qui n'a plus d'amour? La phrase suivante est: sorti de là, tout est gai, varié, nombreux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces expériences qui passaient par l'homosexualité, par un rapport qu'on appelle incestuel avec son beau-fils qui avait 30 ans de moins qu'elle, etc., etc., lui ont permis de penser que l'amour du couple n'est pas la panacée, qu'il peut y avoir, quand l'amour s'éloigne d'elle, des relations qui ne sont pas en deçà de l'amour, mais au-delà de l'amour, et qui sont, je le dis dans mon livre, une immersion dans l'univers, dans le cosmos, avec les plantes, avec les amis, avec les chats, avec les chiens, avec des hommes et des femmes, à travers une amitié, mais une amitié qui n'est pas abstraite, qui est sensorielle, qui est physique, qui est charnelle, elle vit dans une sorte de mystique païenne, corps et âme, dans un transvasement dans les autres et dans le monde. C'est un amour total qui est au-delà de l'amour du couple. Et c'est ça qu'elle essaye d'écrire, et c'est avec cela qu'elle nous contamine. Et puis cette dernière phrase qui va un peu dans le même sens, elle avait horreur de la mort, comme nous tous, mais elle le dit de manière très nette. Elle dit que le seul, ce qui va dans le sens de l'exaltation de la naissance, elle adore regarder les plantes, son temps et le temps de l'éclosion. C'est un mot qu'elle adore. Sa mère était comme elle, des jardinières toutes les deux. Et elle dit ceci, le grand événement, l'événement tragique, c'est la naissance, pas la mort qui n'est qu'une banale défaite. Et je trouve que ça ne pouvait être dit que justement par une femme qui est dans ce temps du renouvellement, du recommencement, qui la réconcilie au-delà de ses chagrins et de ses amours perdus, avec un rythme au-delà même des cycles menstruels qui est celui de l'éclosion, du recommencement, de l'éternel retour. Alors, en disant cela, et en mentionnant l'éternel retour, c'est vous dire aussi, qui est un terme nietzschéen, c'est vous dire que cette dimension féminine qui domine chez les femmes est aussi quelque chose que l'homme possède, puisque en bon freudisme, nous pensons que chacun est un être bisexuel et que le féminin de l'homme possède ces capacités-là. Et quand un homme est créatif, il est en contact avec cette capacité féminine dont je vous parle maintenant au niveau du temps et au niveau de l'éclosion. Bon, beaucoup plus de choses, on essaiera de les dire avec vous et en répondant à vos questions. Merci en tout cas d'avoir été patient en m'écoutant. Silence, peut-être. On a tout compris ou il n'y a pas d'interrogation? Oui.
Je me faisais juste une réflexion selon ce que vous disiez de Colette. Est-ce que la féminité au XXe siècle partirait du principe où on enlève cette espèce de morale restrictive de vivre en ayant un amour non plus uniquement dans le couple, mais dans plein de domaines différents, dans une même intensité, sans avoir le juge de soi-même et des autres. Et c'est là où il y aurait l'épanouissement pour le groupe, par son individualité.
C'est ça, vous avez tout à fait compris le message. Je pense qu'on ne l'a pas entendu comme ça. On l'a vu essentiellement comme quelqu'un de très scandaleux, qui se montre sur scène, qui se montre nu, qui est lesbienne, qui couche avec son petit-fils, enfin son beau-fils. Et donc ça, c'est évidemment, ça fait partie de la trajectoire. Mais ce que le message pour moi, il y a en effet une repensée de recomposition du couple, non pas pour recréer la famille, mais pour recréer des liens multiples. Et c'est encore en avant devant nous, parce que nous sommes actuellement dans la recomposition de la famille, et elle est bien au-delà de ça. Très avant-garde. Voilà, ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est à côté ou peut-être contre l'image d'une Colette provinciale, vieille France, etc., montrer une femme moderne. Et au-delà, plus moderne que nous. Et d'ailleurs, je suis très sensible au fait qu'elle a été oubliée pendant de longues années. Ces derniers temps, j'entendais dire de mes amis écrivains qu'elle est un écrivain de second ordre, mais qu'est-ce que tu lui trouves? C'est pas très intéressant. Alors qu'aux États-Unis, où la politique, à mon sens, est plus rétrograde, mais la société est plus libre, eh bien, elle est considérée comme un être en avant de nous, et beaucoup de livres sont consacrés à elle depuis plusieurs années déjà dans ce sens.
Oui, dans votre livre sur Mélanie Klein, il y a un chapitre qui concerne le matricide.
Oui.
Et j'aurais voulu savoir dans quelle mesure la sexualité féminine est tributaire du matricide, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut s'exercer dans une continuation de ce rapport avec la mère ou pas.
Oui, c'est une très, très bonne et juste question. Je pense que pour Melanie Klein, le matricide est un acte qu'il faut comprendre comme un acte psychique d'abord et non pas comme un passage à l'acte. C'est important à dire parce que pour les gens qui ne sont pas comme vous, madame, dans la psychanalyse ou la psychologie, ça peut paraître comme une invitation à tuer maman, on n'est pas dans l'orange mécanique. Donc c'est tout à fait un acte psychique. Et de ce point de vue, elle pense, du moins c'est mon interprétation, que c'est une nécessité psychique pour tout être humain, homme ou femme. C'est pourquoi elle dit que le complexe fondamental et sans doute l'Édipe, mais plus encore Oreste, puisque parmi les personnages de la tragédie grecque, c'est Oreste qui tue Clytemnestre, donc sa mère. Et elle n'a pas tort en ceci que l'indépendance de l'individu se conquiert, évidemment en s'opposant à la loi du père et en tuant le père si cette loi est extrêmement restrictive et simplement inhibitrice et non pas créatrice et aimante, mais aussi cette liberté humaine, cette autonomie humaine se conquiert en se détachant de maman. C'est la première perte. Elle a développé à cet égard une notion que j'aime beaucoup et que je développe à ma façon, qu'elle appelle la position dépressive, qui est l'autre versant du meurtre de la mère. C'est-à-dire qu'il faut se détacher, il faut perdre maman pour parler. Et c'est quelque chose de très beau quand elle voit l'origine du langage dans la perte du contact avec la mère. C'est parce que j'ai perdu maman, je suis capable de ne pas me coller à maman, que je peux me la représenter. Et quand je me la représente, je peux la nommer. Et donc j'entre ainsi dans le langage. Et on connaît, par exemple, combien c'est difficile pour l'enfant qui a des troubles psychotiques ou autistes de se décoller du corps de la mère pour mentaliser et verbaliser. Donc il faut passer par ce qu'elle appelle la position dépressive, un deuil de maman. La dépression est un deuil. Donc c'est valable pour les hommes et les femmes. Alors la question peut se poser de savoir qu'est-ce qui est plus difficile pour un garçon de tuer maman ou pour une fille. Eh bien, ce sont des difficultés différentes. C'est toujours difficile. Et moi je me demande si pour la fille ce n'est pas encore plus difficile, compte tenu de la similarité, compte tenu de la mêmeté même, je dirais. On est les mêmes, on dépend l'une de l'autre. D'autant plus que la mère est souvent très possessive vis-à-vis de sa fille. Elle lui confie son mal-être, sa dépression. Elle en fait une confidente, c'est des vases communicants. Alors qu'avec le garçon, elle a tendance évidemment à le couver, à se l'approprier, mais elle peut lui lâcher parfois les baskets en disant qu'elle va devenir un grand homme. Elle lâche plus difficilement les baskets de sa fille. Et on assiste à partir de là à des comptes à régler entre fille et maman dont on entend les échos jusqu'à l'âge de 40-50 ans de nos patientes. C'est très difficile de se détacher de maman et de faire le reste féminin.
Oui, bonsoir, monsieur Cyril. Je pose une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'angoisse chez une femme que chez un homme en raison justement de ce rapport avec la mère? Parce que vous parliez de la mort, en partie de l'angoisse de Colette tout à l'heure. Je me suis interrogé justement sur l'angoisse.
Écoutez, moi je crois qu'il y a des angoisses. Il m'est difficile de parler de l'angoisse en général. L'angoisse de l'hystérique n'est pas l'angoisse psychotique, par exemple, déjà. L'angoisse hystérique, et puisque chez les femmes, on considère que c'est une note continue, la structure hystérique, l'angoisse est fréquente, mais elle ne prend pas nécessairement le côté catastrophique qu'on trouve dans les psychoses. Donc, je dirais, pour répondre vite à votre question, c'est une angoisse endémique. Elle est peut-être moins dramatique. Quand une femme me parle d'angoisse, moi, ça ne me fait pas peur. Je la prends en analyse, je le mets sur le divan et j'attends que ça passe. Parce qu'il y a une grande souplesse de la psyché féminine qui absorbe l'angoisse, qui vit avec l'angoisse. Mais quand un homme me parle d'angoisse, quand il ose en parler, ça me fait peur, parce que je me dis que c'est une angoisse catastrophique qui peut le conduire à la décompensation. Pour aller dans le sens de Colette, puisque vous avez eu la gentillesse de parler d'elle, il y a une phrase que j'aime citer aussi. Il y a deux personnages de Colette qui parlent d'une troisième. Ah, mais là, elle est formidable. En quoi elle est faite? Elle est un acier. Et l'autre dit, mais non, elle est en femme. Donc, il y a une souplesse du féminin. L'acier est déjà souple, mais le féminin l'est encore, qui fait que l'angoisse, on en vit et il fait partie du spasme de la conversion comme du spasme de la jouissance. Et elle se dit aussi dans le discours parfois logoréique de l'hystérique. L'angoisse de l'homme est pierrale, et quand elle casse la pierre, ça tombe en poussière.
J'ai une question à poser sur votre biographie personnelle. Je ne sais pas si je peux la poser. Ça concerne les samouraïs.
Oui.
Est-ce que vous acceptez cette question?
Et si vous voulez, non. Oui.
Dans les samouraïs, vous avez écrit « Je ne comprends rien à la musique ».
J'ai dit ça, moi?
Oui, vous avez écrit ça. Ça m'a frappé.
Je ne sais pas si c'est cette phrase-là. Non, je dis que ce n'est pas que je ne comprends pas. Ou alors, si je l'ai dit, c'est au sens où je ne suis pas une théoricienne de la musique. Enfin, je vais être très personnelle parce que je pense que vous voulez me pousser de ce côté-là. J'ai une sœur qui est une musicienne qui avait fait ses études au conservatoire de Moscou, qui était une très bonne violoniste, et puis elle a fait de la théorie de la musique. Donc non seulement elle fait de la musique, mais elle la comprend. Moi, je suis plutôt nulle, moyenne, mais par rapport à elle, nulle. Donc si je dis cette phrase, ça voulait peut-être faire signe de ce côté-là, à savoir que je n'ai pas la capacité de virtuose ni de théoricienne, mais la musique me parle et je vis avec, mais de manière naïve. Voilà ce que ça voulait peut-être dire.
Oui, c'est justement la manière naïve qui est intéressante, en particulier oui. Chez les femmes, ce qui est peut-être nouveau aujourd'hui dans la sexualité féminine, c'est justement cette naïveté. Vision d'un homme, puisque j'ai participé à un peu oui. Le destin d'Amélie Poulain, oui. C'est bien ce que j'ai recherché dans cet auteur.
La naïveté.
Ah, oui, la simplicité dans le style. Ça, vous êtes d'accord avec moi comme écrivain.
Tout à fait.
Bien sûr. Et je me pose une autre question, justement, c'est l'angoisse encore qui revient chez vous en particulier. Comment si cette. Maintenant que vous êtes dans une dimension d'humour, de jeu, d'imagination, là où sont les psychanalystes, est-ce qu'on peut vraiment exclure la musique ou est-ce que la musique est présente chez vous, une curiosité personnelle?
Est-ce qu'il est présente dans mon quotidien?
Oui, dans votre quotidien.
Mais écoutez, moi, j'écoute très souvent de la musique. Je l'entends, je la partage beaucoup avec mon fils qui fait une formation de musicien. Avec toute mon histoire sortie d'un pays communiste, passant entre plusieurs langues, le russe, le bulgare, le chinois, l'anglais, le français, l'allemand, donc j'ai plusieurs moyens d'éponger l'angoisse. Évidemment, la psychanalyse est principale, qui est une autre langue. Autant j'ai pu être angoissée comme adolescente, je crois que je ne le suis plus. Un des rares êtres, vous me direz, qui ne sont pas angoissés. Mais on peut arriver à ça. Et la musique m'accompagne dans cette sérénité, je vais dire. Mais elle n'est pas source d'angoisse et elle n'accompagne pas d'angoisse non plus. Je l'entends comme le moment de la sérénité, même s'il y a des musiques, notamment les musiques modernes, contrapuntiques, etc., que j'entends comme porteuses d'angoisse. Mais celle que j'aime est une musique plutôt de la sérénité.
Je vous remercie, Julie.
Merci. Merci à vous. Peut-être une dernière question de monsieur, là.
Bonsoir, vous avez fait allusion deux fois à l'hystérie et pour en revenir à la création féminine, je voudrais savoir comment vous explicitez l'ancienne formule de lacanienne, l'hystérie est une œuvre d'art déformée, si c'est possible d'être rapide.
Oui, ça c'est déjà chez Freud. C'est très énigmatique, mais je pense que cela veut dire que... alors que l'œuvre d'art est une sublimation de la pulsion et permet justement d'atteindre cette sérénité en disposant à travers la psychisation et à travers des moyens d'expression, le langage, la peinture ou la musique, les vibrations pulsionnelles, érotiques ou thanatiques, et amour ou destruction, eh bien, l'hystérie prête son corps à cela. Elle figure l'angoisse, la violence, la mort, l'œuvre de la pulsion à travers les symptômes. Mal de tête, saignement, crampes à l'estomac, spasmes de la glotte, enrouement, enfin toutes les formes de conversion. La conversion est une métaphore incarnée. Ça, c'est très lacanien, par contre. Voilà, on est obligé de s'arrêter là. Merci de votre attention et merci de ces questions que j'ai senties comme venant de la part d'amis. Merci.
Merci beaucoup. Merci, madame.